Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Et bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Très content de te retrouver, ça fait quelques semaines. Parlons d'abord de la commission Grenier. Qu'est-ce que c'est la commission Grenier? Ça avait été lancé en 2007 par Jean Charest. À cause du fameux livre là, de Normand Lester, Le référendum volé, puis il y avait eu une commission mais un peu secrète, tout ça. Puis quelques années plus tard, ben là, il y a des pressions, plusieurs années plus tard, il y a des pressions de la part de l'Assemblée nationale qui a adopté deux motions pour obtenir les documents de la commission Grenier qui avait été classée pour je sais pas combien, 100 ans, je pense.
Ouais, ben. On est dans le huis clos décrété dès la première journée des travaux, comme si on avait affaire à des secrets d'État opaques qui devaient rester secrets.
C'est ça.
Pour des générations. Il y a deux débats là-dedans, Antoine. Il y a
ouais.
Le premier, il y a faire la lumière sur ce qui s'est passé au référendum de 95, avoir accès à ses archives. C'est un débat légitime. Ça va de soi que ça préoccupe davantage les partis politiques souverainistes. Très bien. Mais, depuis le reportage d'hier d'Alexandre Robillard dans les pages du Devoir, je
oui.
dirais qu'il y a un deuxième débat.
Celui Comment s'intitulait son reportage?
Je me souviens pas du titre exact, mais grosso modo, il nous rapporte la réaction, le refus du directeur général des élections
ben oui.
de coopérer en quelque sorte avec la demande, à la de donner suite à la demande de l'Assemblée nationale.
Et ça, il y a comme eu deux motions là, où l'Assemblée nationale ordonne au directeur général des élections de dévoiler ces informations-là qui sur la commission Grenier de 2006-2007.
Et ça, je trouve que c'est un débat important, puis on passe souvent à côté. C'est pas que je veux pas faire la lumière sur le référendum de 95, c'est sûr, mais on a avec les personnes désignées, comme c'est le cas avec le vérificateur général, pas le vérificateur général, mais c'en est un, on peut penser aussi mm-hmm. au vérificateur, au protecteur du citoyen ou au directeur général des élections.
Ça, c'est les personnes désignées par l'Assemblée nationale pour faire un travail de fond, là. Alors, il y a le commissaire à l'éthique, le commissaire au lobbyisme et, comme tu l'as dit, vérificateur général. Là, avant, il était 5, ils sont rendus 6. Il y a aussi le commissaire à la langue française.
C'est ça. On a de formidables contre-pouvoirs.
Oui.
Mais il n'y a personne qui est le gardien du gardien. Il n'y a personne qui est le contre-pouvoir. Et là, on a un bel exemple ici avec le directeur général des élections qui, à mon avis, il faut bien que quelqu'un le critique par moment.
Oui.
Là, il agit dans ses propres intérêts. Il n'est pas au service de l'intérêt public, puis il n'y a personne pour le souligner.
Ah,
parce
oui.
que sont un peu intouchables, ces personnes désignées-là.
Ben oui.
Et là, on voit quoi? On voit au fond un directeur général des élections qui est le propriétaire, en quelque sorte, des résultats d'une enquête.
Mm-hmm.
Il a la liberté, c'est à lui, ses résultats, il a la liberté de partager les résultats. Il ne veut pas les partager. Pourquoi?
Oui, il faut le dire, l'enquête a été lancée par le directeur général des élections. Moi, j'ai dit Jean Charest tout à l'heure, mais c'était vraiment le directeur général des élections
oui.
qui avait organisé ça.
C'est son enquête, il a mandaté quelqu'un et c'est les résultats qu'il possède. Et pourquoi il ne veut pas les partager? Permets-moi d'être cynique un peu.
Là, tu parles de Jean-François Blanchet, là. Faut pas confondre avec Marcel Blanchet, qui était directeur général des élections à l'époque.
Bon. Oui, mais moi, je veux pas personnaliser. Je parle de l'institution qui est le directeur général des élections. Pourquoi on refuse de collaborer avec l'Assemblée nationale? Mais permets-moi d'être cynique un peu, Antoine. C'est parce qu'on veut pas de troubles. Si on fait rien, on n'aura pas de poursuite, on n'aura pas de problème, on fera pas de vagues. Donc là, il y a un intérêt qui n'a rien à voir avec l'intérêt public, là, qui est l'intérêt corporatiste d'une institution de ne pas trop s'acheter de problèmes, de pas faire de vagues. Mm. Et c'est pas la première fois là, qu'on nous sert ça au directeur général des élections. Rappelle-toi, quand ça pleuvait les scandales sur le financement des partis politiques dans les années qui précédaient la commission Charbonneau, ben, le DGEQ nous disait, oui, moi, je gère le système de financement des partis politiques, mais j'ai pas les pouvoirs d'intervenir.
Ah, je me souviens, j'étais découragé.
Et là, on exigeait des modifications explicites à la loi pour qu'on lui impose de faire des vérifications, alors que l'esprit de la loi, l'intérêt public, les pouvoirs généraux qui lui étaient déjà conférés, ça allait de soi que s'il voulait y mettre du sien, il pouvait le faire. Mais on se réfugiait derrière une excuse juridique pour dire « Non, nous autres, si vous ne modifiez pas la loi, on ne fait rien. » Et là, c'est un peu ça qu'on a vu dans le reportage d'Alexandre Billard hier. Un directeur général des élections qui nous dit « Moi, je ne veux pas de trouble. Je ne veux pas me donner la peine de coopérer avec l'Assemblée. Et donc, je vais le faire seulement si la loi me force à le faire. » Encore une fois, comme s'il n'avait pas le droit de le faire. Ben non, il a tout à fait les pouvoirs de partager les résultats de l'enquête. Et là, ici, il y a quelques enjeux à décortiquer. C'est un peu complexe, mais ça vaut la peine. DGEQ, c'est lui qui a les travaux, c'est lui qui les a commandés, ça lui appartient. S'il ne les partage pas, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il ne veut pas. L'Assemblée l'invite à le faire par des résolutions. Il dit non. Il prétend que la résolution est sans effet. Probablement qu'il a raison. C'est vrai qu'une Assemblée qui prend position pour dire on aimerait que telle chose, c'est pas comme une loi. Ça je le concède. Mais là, après, il soutient son refus en disant « Quand vous lisez la loi qui crée le directeur général des élections, moi, j'ai des immunités blindées. » Et c'est vrai qu'il y a dans la loi sur le directeur général des élections des immunités très fortes. Elles sont là pourquoi? Parce qu'on veut que ces personnes désignées, elles soient indépendantes du politique. Donc, on leur donne énormément de pouvoir pour...
Et justement, quand on a une immunité, c'est-à-dire qu'on est blindé contre les poursuites, pourquoi ne pas faire preuve d'un peu plus de créativité pour le bien commun?
Voilà, Antoine. C'est-à-dire que l'argument des immunités est à double tranchant. On peut pas dire, moi, je suis intouchable, donc les élus, je veux pas donner suite à votre demande. Puis en même temps, dire, ben, je peux pas donner suite aux demandes parce que si je le fais, je m'expose à des problèmes. Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Et là, le DGEQ va très loin. En tout cas, si on se fie au reportage d'Alexandre Billard, non seulement il dit, moi, ça va me prendre une loi qui m'ordonne de partager les trucs, mais en plus, il prétend que cette loi, si elle était adoptée, elle serait contraire aux chartes des droits et libertés. Alors, il dit, le législateur devra utiliser une disposition de dérogation pour dire que dans sa loi, il me force à divulguer les résultats malgré, nonobstant, la protection de la vie privée. Ah. Et là, on voit en arrière-plan, j'appellerais ça le traumatisme de l'affaire Charest, et de sa poursuite sur les fuites à l'UPAC.
Rappelle-nous un petit peu.
Ben là, c'est un peu compliqué, mais il y a toute une saga entourant le fait que Jean Charest a poursuivi l'État et l'UPAC parce qu'il prétend qu'il y a eu des fautes. Il y aurait eu des fautes graves.
Puis il y a eu gain de cause, là. Parce que nous, au bureau d'enquête, ici, à l'Assemblée nationale et au bureau d'enquête à Montréal, on a obtenu toutes sortes de documents policiers. Donc, on a fait plein d'articles là-dessus. On a même fait un livre qui s'appelle PLQ Inc. Puis Jean Charest, donc, il a poursuivi, non pas les messagers, mais il a poursuivi l'État pour dire que ça n'aurait jamais dû arriver. Donc, c'est de ça... qu'a peur Jean-François Blanchet, le directeur général des élections, il a peur de se faire faire une poursuite où on dirait ben l'État a dévoilé des résultats d'une ou même des archives d'une commission d'enquête qui s'est déroulée à huis clos.
Oui, mais dévoiler, c'est pas une faute. La faute dans l'affaire Charest, c'est que ça a été dévoilé tout croche.
Ah oui.
D'une manière qui respecte pas les procédures en place.
C'est
mais
ça.
Il n'existe pas un droit à faire du financement illégal et ensuite à faire l'objet d'une enquête, faire l'objet de soupçons sans que ça soit jamais dit qu'il y a eu une enquête.
Mais oui.
Il faut pas mélanger. Les institutions ont le droit de documenter des problèmes. Et le fait que dans un dossier, il y a eu des fautes, des erreurs graves dans la manière de ne pas respecter la gestion des informations.
Mm-hmm.
Et là, je pense qu'on est comme sur-traumatisé de l'affaire Charest. Et là, on mélange toutes sortes d'affaires. Mm-hmm. À la fin, Antoine...
C'est paradoxal parce que ça, il y a peut-être des gens qui s'en rappellent pas, mais Jean Charest, en pleine campagne électorale en 2007, il a témoigné devant la commission Grenier, oui. Parce que lui a été mêlé à l'affaire d'Option Canada.
Hein? Oui.
Il a témoigné à huis clos. Moi, je m'en souviens, j'étais reporter, puis on posait des questions à Jean Charest là-dessus, puis il était mal à l'aise. Donc, cette affaire d'Option Canada, donc il y aurait 500 000 $ qui auraient été dépensés en trop par le camp fédéraliste pendant la campagne référendaire.
À la fin, là, soyons un peu constructifs.
Ouais.
D'abord, si le directeur général des élections sortait de sa position un peu corporatiste, Et se mettait dans un état d'esprit plus constructif. La solution, c'est peut-être pas de tout divulguer, mais c'est peut-être d'éplucher les informations puis de convenir que certaines sont mûres pour être rendues publiques, d'autres moins. Et déjà là, on serait dans une dynamique plus constructive que l'actuel tout ou rien. Vous adoptez une loi, vous mettez une dérogation, ou sinon je fais rien. Premier élément. Deuxième élément de solution, les députés pourraient peut-être... Oui, ils ont voté une résolution, mais peut-être acheter l'idée qu'effectivement, une résolution, c'est pas comme une loi. Et entre les deux, je pense qu'il y a une façon, une voie utile de contourner l'immunité que le DGEQ, derrière laquelle le DGEQ cherche à se protéger.
Mm-hmm.
L'Assemblée nationale, notre Parlement, est un lieu protégé par des privilèges parlementaires.
Absolument.
Ces privilèges-là sont supralégislatifs. Ils sont au-dessus des lois. Et donc, il me semble que la solution simple, c'est de faire comprendre au directeur général des élections que l'Assemblée a le droit de le convoquer et que dans l'enceinte parlementaire, ben, son immunité législative ordinaire, elle ne vaut pas autant que les privilèges parlementaires qui, eux, sont de rang supraconstitutionnel.
Aha,
alors, okay. De deux choses l'une, soit on épluche les rapports dans une longue commission parlementaire où les immunités ne tiendront pas où le DGEQ et ses représentants vont devoir répondre à toutes les questions, parce que ça, c'est la Constitution qui prévoit les privilèges parlementaires, ou soit ils coopèrent avec une attitude un peu plus constructive, mais à terme, on voit dans ce problème un phénomène inquiétant. Les personnes désignées sont des contre-pouvoirs extrêmement utiles et extrêmement précieux, mais plus ils vont jouer un rôle important dans nos systèmes, plus la question de savoir quelles sont leurs limites, quels sont les encadrements, quels sont les contre-pouvoirs de ces contre-pouvoirs, lorsque justement leur intérêt plus court terme de ne pas avoir de problème semble prendre le dessus sur l'intérêt général, pose des questions délicates. Et il faut pas se gêner par moment pour critiquer les personnes désignées.
Oui.
Parce qu'il faut le faire. Parce que le pire qui peut arriver dans nos systèmes, c'est de sacraliser ces personnes désignées-là et perdre tout recul critique à leur endroit.
Mm-hmm.
Le DGEQ fait des choses extraordinaires, mais quand il se réfugie derrière des excuses juridiques pour ne pas faire son travail, que ce soit pour vérifier le financement illégal il y a quelques années sous prétexte que la loi le dit pas clairement, je le fais pas.
Ah.
Et là, maintenant...
Écoute, Marcel Blanchet, là, il y avait des informations sur collusion, corruption constamment, puis financement illégal. Marcel Blanchet disait « Je fais de la sensibilisation ». Je me souviens, c'était pitoyable.
Il faut pas que le droit devienne une excuse facile pour préconiser une certaine inaction. Puis je pense que
mais c'est une certaine vision du droit, Patrick, il me semble, c'est très positiviste. Là, si c'est pas écrit noir sur blanc qu'il faut que j'agisse, ben j'agis pas.
Oui, en effet. C'est comme changer la loi pour me le dire clairement, sinon je fais rien. Ça me semble être une interprétation un peu réductrice de la loi.
C'est un très bon mot de la fin, puis on n'a pas eu le temps de parler du renvoi sur la loi, sur l'évaluation d'impact, mais on y reviendra dès la semaine prochaine, dans quelques jours.
On va se reprendre.
On met ça dans notre petite poche. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
Merci Antoine. À bientôt.
À bientôt. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est une fonction qui s'appelle la fonction partage. Et il n'y a pas uniquement Meta. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.